l'annonce du rapport Spinetta, est un peu étrange parce que les modalités de grève, présentées comme inédites par l'intersyndicale, bah, c'est 2 jours sur 5. Une espèce de grève en pointillé qui a surpris tout le monde, qui a un petit peu déçu les intentions des cheminots les plus combatifs. Une grève bizarre, donc, une drôle de grève, mais une grève quand même avec beaucoup de cheminots engagés, avec beaucoup de cheminots qui veulent gagner, et même des cheminots qui nous disent que pour eux, c'est la grève d'une carrière. Sous-entendu, ils aimeraient bien quand même avoir à leur actif une victoire historique, un petit peu comme la génération de 95, justement, a fait 95, et une victoire un petit peu retentissante qui permette de laver un petit peu les traces des échecs passés. Bon, il faut dire aussi que la réforme qu'on nous propose, c'est une attaque relativement inédite. Je ne reviens pas en détail sur le truc, si ça intéresse, on peut en voir ça dans la discussion, mais en gros, ce qui a choqué le plus les cheminots, c'est que, alors que l'entreprise supprime déjà des postes depuis des années, hein, il y a plusieurs milliers de suppressions de postes chaque année, ils voudraient passer à la vitesse supérieure en se donnant les moyens de pouvoir procéder à des licenciements économiques. C'est à ça que sert la suppression du statut. Hein. Ce statut, c'est pas la panacée qu'on présente dans les médias, mais ça permet au moins d'être protégé contre les plans sociaux, et ça, les cheminots y tiennent. Et puis, c'est la question des conditions de travail, qui est aussi dans le collimateur du gouvernement, puisqu'en cas de perte de marché par la SNCF, ben, les cheminots qui bossaient dans la région concernée devraient être transférés obligatoirement aux repreneurs privés, et évidemment à ces conditions. Ça sert aussi d'argument pour ceux qui resteraient à la SNCF, un argument qui est en fait un moyen de chantage, sous-entendu, si tu ne travailles pas comme le privé qui nous menace, eh ben, on va perdre le marché, et de toute façon tu iras chez eux. Donc tout ça, plus une direction SNCF qui aimerait bien que les gens considèrent que la dette du chemin de fer, c'est la faute aux cheminots, comme si on était responsable du sous-investissement, plus une campagne de lynchage médiatique un petit peu qui visait à nous rendre responsables de la mauvaise qualité de service qui est due à ce même sous-investissement. Tout ça, ça a contribué à mettre le feu aux poudres, et quand le rapport Spinetta est tombé, il a fait l'effet d'une bombe. Ce qui est sûr aussi, c'est ce qui est clair dans la tête de la plupart des cheminots, et c'est pas forcément toujours le cas. Il y a 2 ans pour la loi travail, c'était pas le cas, par exemple, pas unanimement. C'est que là, on n'est pas dans une affaire que de cheminots. Là, c'est pas une histoire de cheminots, parce que c'est un peu à Macron qu'on doit cet état de fait. Il a choisi d'attaquer un certain nombre de personnes en même temps. Il a choisi de cibler un secteur réputé combatif de la classe ouvrière pour l'écraser devant tout le monde, faire un exemple, et calmer un petit peu tous les autres, un peu comme l'a fait Thatcher avec les mineurs. La belle affaire pour lui, s'il réussit. L'ennui, c'est que s'il échoue, c'est son quinquennat qui joue. Là. C'est les 120 000 postes supprimés dans la fonction publique, c'est la réforme des régimes spéciaux de retraite qui doit arriver en 2019, les hôpitaux, la sécu, et tout un tas de trucs dont on n'a pas encore entendu parler, certainement. Donc, dans la tête de beaucoup de collègues, de presque tous, à vrai dire, il est clair que faire échec au gouvernement aujourd'hui, ça va bien au-delà de sa réforme du chemin de fer. Et c'est pour ça que l'histoire d'un tous ensemble, de convergence des luttes, de se tourner vers les autres travailleurs, ça a si bonne presse cette année. Les discussions, elles vont bon train dans les services sur la grève d'Air France, sur les grèves des hôpitaux, et Macron lui a beau dire dans ses interventions télévisées que les colères sont sans rapport, et ben le rapport entre des patients qui attendent dans les couloirs des hôpitaux faute de moyens et des petites lignes qui ferment, il est fait spontanément. Le rapport entre une boîte, la SNCF, qui double ses bénéfices et qui fait le choix de se doter des moyens de faire des licenciements économiques, le rapport il est fait avec l'industrie dont c'est l'histoire depuis 10 ans. 10 ans de discontinu de licenciements par des boîtes qui font du profit. Donc ces rapports-là, ils sont faits spontanément, et ce qui commence à germer un petit peu dans la tête des collègues, c'est quand même la possibilité d'un mouvement d'ensemble, d'une riposte de tout le monde du travail contre ce gouvernement. Alors, ce dont on aurait besoin, à notre avis, pour gagner, ben, c'est de devenir contagieux. Et c'est ce qu'ils craignent. C'est pour ça que le gouvernement envoie la police sur les campus, c'est parce qu'il a peur que les étudiants entraînent au-delà d'eux, qu'ils donnent des idées à d'autres. Bien, nous, c'est exactement ce qu'on veut, donner des idées à d'autres. C'est-à-dire que la situation serait quand même très différente si un autre secteur de la classe ouvrière se mettait en grève avec nous. S'il nous rejoignait dans les manifs, s'il nous rejoignait dans les bagarres, eh ben, là, on créerait peut-être les conditions du signal du branle-bas de combat, quoi, du signal du tous ensemble, du signal de on fonce jusqu'à gagner. Et ça pourrait donner des idées bien au-delà du chemin de fer, bien au-delà des étudiants. Et c'est un petit peu à ça qu'on pense quand on parle de convergence. C'est-à-dire, quand on parle de convergence, on pense pas à des délégations, comme ça a été le cas dans nos assemblées générales, par exemple, des délégations venues nous apporter le soutien de leurs collègues. Ça, évidemment, ça fait chaud au cœur, ça témoigne d'une popularité de la grève, mais c'est pas ça qui fait peur à Macron. Ce qui fait peur à Macron, c'est si notre grève donne des idées à d'autres de faire grève. Et c'est ça qu'on appelle la convergence des secteurs en lutte, qui, en lutte vraiment, c'est-à-dire au-delà des milieux syndicaux et militants habituels, hein, un truc significatif, et qui se rencontrent et qui unissent leurs efforts. Alors, la convergence des luttes, cette année, elle a bonne presse. Hein. Elle est super à la mode, les médias parlent de coagulation. La convergence, même Philippe Martinez a osé le mot. Par contre, de là à la préparer réellement, il y a un pas que les directions syndicales n'ont pas franchi. Déjà parce qu'ils nous appellent à des dates extrêmement espacées. Entre le 22 mars et le 19 avril, on n'a rien eu. On n'a pas eu l'occasion de rencontrer des travailleurs d'autres secteurs, de se faire voir d'eux, de montrer qu'on était en mouvement. On n'a pas eu ces occasions-là, un petit peu comme s'il y avait un cordon sanitaire autour des cheminots quand même. Et puis, tout ce qui nous est commun avec les travailleurs d'autres secteurs, je pense aux salaires qui sont gelés chez nous depuis 4 ans, je pense aux conditions de travail qui empirent, je pense aux suppressions de postes, aux licenciements qui vont arriver, c'est-à-dire tout ce qu'on a de commun avec les travailleurs de tous les autres secteurs, ben, c'est pas ça qui est mis en avant par les directions syndicales. Au contraire, quand les directions syndicales s'adressent au-delà du secteur strictement cheminot, c'est pour s'adresser à des gens en tant qu'usagers du rail, c'est pas pour s'adresser à des gens en tant que travailleurs ayant potentiellement les mêmes intérêts. Ils restent sur un domaine strictement ferroviaire, et même dans le domaine strictement ferroviaire, ben leurs ambitions sont finalement pas très ambitieuses justement, puisqu'ils ne revendiquent pas le retrait du pacte ferroviaire, ce qui est revendiqué dans les assemblées générales. Eux, ils revendiquent la prise en compte des propositions syndicales pour une autre réforme. La CGT a été même jusqu'à écrire sa propre réforme, au cas où Macron sera en panne d'inspiration, quoi. Et à petites ambitions, petits moyens. C'est-à-dire que là, on n'est pas engagé dans une grève qui soit de nature à arracher le morceau rapidement. On est engagé dans une grève en pointillés qui doit durer 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que le gouvernement a annoncé que les négociations dureraient 3 mois. Donc il est clair pour tout le monde, en tout cas à la tête des syndicats, que cette grève, sa fonction, c'est de soutenir des négociations. Mais des négociations avec un gouvernement qui, de leur propre aveu, ne négocie rien. Donc les cheminots commencent à un petit peu prendre ce préavis en 2 jours sur 5 comme une impasse. Et effectivement, si on considère, comme c'est le cas de la majorité des cheminots, que pour gagner, il faudrait y aller tous ensemble, alors oui, ce préavis est un obstacle. Il est un obstacle parce qu'il pose plusieurs problèmes. Alors, je dis un dernier mot sur ce préavis, il concerne l'UNSA, la CFDT, la CGT. Sud a déposé un préavis reconductible. Néanmoins, sur le terrain, Sud défend très peu son préavis reconductible, n'invite pas les collègues à s'en saisir, et de fait s'aligne sur la politique de l'intersyndicale au motif d'unité syndicale, justement, pour ne pas briser l'unité syndicale. Donc là, on a un exemple criant d'unité syndicale qui va à l'encontre des possibilités de convergence réelle entre les travailleurs. C'est pas parce que les syndicats s'entendent entre eux que ça crée les conditions que les travailleurs s'entendent entre eux aussi. Donc ce préavis 2 sur 5, alors au début il avait la faveur des collègues, il faut dire ce qui est, il avait vraiment la cote, parce qu'il permettait de perdre moins de pognon en faisant grève. Sauf qu'il y a de plus en plus de collègues qui commencent à déplorer le fait que même si on perd moins de pognon, on a aussi moins d'impact. Alors bien sûr, les cheminots c'est un secteur stratégique, ça a de l'effet même quand on fait la grève à moitié, pas forcément que les jours de grève, hein, les gens qui font grève dans les technicentres créent de tels retards de maintenance que c'est tous les jours qu'il y a des trains qui sont supprimés. Néanmoins, ben, que dire d'une guerre où on donne son plan de bataille 3 mois à l'avance à l'adversaire? Nécessairement, ça lui permet d'avoir le temps de s'y préparer, et y compris ça permet aux entreprises qui se font livrer par train d'organiser le temps de transport de façon à ne pas être trop touchées. Mais le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est que ce préavis-là, il se heurte frontalement aux possibilités d'auto-organisation du mouvement. Parce que dans les assemblées générales, traditionnellement, on décide de la poursuite ou de l'interruption du mouvement, et on vote là-dessus. Or là, on a un préavis, un calendrier qui est ficelé dès le début. On sait jusqu'à juin quels seront les jours de grève. Mais dans ces conditions, il y a un certain nombre de collègues aux yeux desquels l'intérêt des assemblées générales est relativisé par ce problème-là. Pourquoi venir aux assemblées générales si tout est plié d'avance? Donc ça veut dire qu'on a une influence dans les assemblées générales qui est très en dessous de ce qu'elle pourrait être vu les chiffres de grévistes, et ça pose encore même d'autres problèmes. Dans la mesure où, bah, entre deux séquences de grève, on retourne au boulot, les collègues qui même se seraient laissés gagner par l'enthousiasme d'une assemblée générale, eh bien, retournent auprès de leur chef qui leur passe la douche froide, qui leur passe la propagande de la boîte, etc. Et dans ces conditions-là, on ne fait pas monter la mayonnaise avec la même facilité, quoi. Même pour les collègues qui sont les plus motivés, ceux qu'on appelle un peu les militants de la grève, les plus actifs, bah, pour pouvoir faire les tournées, bah, c'est sur les jours de travail. Donc il y a forcément moins de tournées pour aller convaincre les hésitants, pour aller porter la parole de l'AG dans les services. Elles sont forcément plus épuisantes. Forcément moins d'actions tournées vers l'extérieur pour se faire voir, tout ça épuise un petit peu le mouvement inutilement. Enfin, ben, la grève en pointillé, force est de constater que ça n'envoie pas le signal de départ, quelque part. Ça n'envoie pas le signe du branle-bas de combat, du « on y va tous ». C'est perçu comme une demi-mesure, et ça incite les collègues à la mesure. Il y a un tas de collègues qui perlent la perlée, comme on dit chez nous, c'est-à-dire que sur les 2 jours proposés par l'intersyndicale, ils n'en font qu'un, ou ils n'en font qu'un sur 3, ou ils se mettent d'accord d'une équipe à l'autre pour faire la grève par roulement. Et il y a énormément de collègues qui en discutent, qui nous disent « moi je suis convaincu qu'il faut faire grève, mais j'attends de voir ». Sous-entendu, ils attendent de voir soit une évolution miraculeuse des négociations, c'est pas du tout au programme, admettons, soit un signe un petit peu clair que c'est maintenant tout de suite qu'il faut y aller. Et l'ennui, c'est qu'il n'y a pas qu'au chemin de fer, qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de voir. Dans tout un tas d'entreprises, il y a des gens qui attendent de voir, et notamment d'attendre de voir ce que les cheminots vont faire. Et le préavis en 2 sur 5 ne leur donne pas le signal que les cheminots sont prêts à foncer. Et n'a pas cette capacité à entraîner autour de nous, au-delà du chemin de fer. C'est pour ça qu'à notre avis, il faudrait le dépasser. Et fort heureusement, dans un certain nombre d'assemblées générales, dont Strasbourg n'est pas que loin de là, il y a des voix qui s'élèvent contre ce préavis, il y a des voix qui commencent à dire qu'il faudrait un peu plus. Et y compris qu'il faudrait la grève reconductible, c'est-à-dire la grève tous les jours jusqu'à la victoire. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire ça. Il y a même certaines gares comme Paris Nord qui ont voté le principe de la reconductible il y a un beau temps et qui ont parti le boulot depuis 3 semaines à une forte minorité quand même. Et ces voix-là, elles s'expriment d'autant plus facilement que les grévistes se sont donné les moyens de s'exprimer eux-mêmes et de prendre eux-mêmes leur mouvement en main. C'est-à-dire, comme à Strasbourg par exemple, mais c'est le cas dans un certain nombre d'autres gares, on a ce qu'on a appelé ici un bureau de la grève, dans d'autres endroits ça s'appelle un comité. C'est une structure qu'a votée l'Assemblée Générale et dans laquelle tous les grévistes peuvent s'investir, qu'ils soient syndiqués ou non. Mais quand on mène ce genre de manière de diriger le mouvement, on apprend collectivement à prendre les choses en main nous-mêmes, à dire nous-mêmes ce qu'on pense et à avancer sur nos propres revendications sans forcément qu'on attende qu'une direction syndicale ou l'autre dise à notre place. Et bien partout où ça a lieu, on a de fortes chances que notre manière de voir les choses, notre manière de voir la suite de la mobilisation se fasse jour. Et je pense notamment à la région parisienne, où ils se sont même dotés de ce qu'on appelle une assemblée générale intergare, c'est-à-dire le même genre de réunion. La dernière a réuni quand même 125 cheminots, ce qui est beaucoup, hein, on ne se rend pas bien compte, c'est pas comme les étudiants, 125 cheminots de toutes les âgées de Paris, c'est pas rien. Et si cette dynamique-là continue, alors la situation est tout à fait ouverte. Le 7 mai, le Premier ministre est censé recevoir les directions syndicales. Personne ne sait ce qui va s'y discuter. Fort probablement, de part et d'autre, on va chercher une issue indolore au conflit. Sauf que si les cheminots continuent à s'énerver, notamment là où ils ont les moyens de porter leur parole, alors il se pourrait que la suite ne soit ni dans les plans du gouvernement, ni dans les plans de l'intersyndicale, et que ce soit nous qui l'écrivions.